J'ai pas peur de la foule, de la mort, des Ardennes, de la Sarthe, de la pluie sur les cartes. J'ai pas peur du hors-bord, du offshore, de l'ET à des FARC. Quand j'entends ton cœur battre, je ne crains personne, pas même un lion, pas même le roi des cons.
Merci Gianna. Jeanne Chéral n'a pas peur, c'est bien la seule. Et il y en a un autre qui se rit des mécanismes traditionnels de l'horreur, l'esprit provocateur d'Oscar Wilde. La preuve, le fantôme de Canterville, traduit par Jules Castier, lecture proposée par Camille. Des Américains modernes, qui n'ont pas peur des fantômes, ont acheté un château hanté en Écosse.
Monsieur Otis fut réveillé par un bruit bizarre dans le couloir, à l'extérieur de sa chambre. On eût dit un tintement de métal, et il semblait se rapprocher d'instant en instant. Il se leva immédiatement, frotta une allumette et regarda l'heure. Il était exactement 1 heure. Monsieur Otis était très calme et se tâta le pouls, qui n'était nullement fébrile. Le bruit étrange se prolongea encore, et il entendit en même temps distinctement un bruit de pas. Il chaussa ses pantoufles, prit dans sa mallette une petite fiole oblongue et ouvrit la porte. Juste en face de lui, il vit, au pâle clair de lune, un vieillard d'aspect terrible. Il avait des yeux rouges, pareils à des charbons incandescents. Une longue chevelure grise lui tombait sur les épaules en tresses en mêlée. Ses vêtements, d'une coupe ancienne, étaient salis et élimés. De lourdes menottes et des fers rouillés lui pendaient aux poignets et aux chevilles. « Cher monsieur, » dit monsieur Otis, « permettez-moi vraiment d'insister auprès de vous pour que vous huiliez ces chaînes. Je vous ai apporté à cette fin un petit flacon de lubrifiant Soleil Levant Tambani. On le dit totalement efficace dès la première application et il a sur l'emballage plusieurs attestations allant dans ce sens émanant de quelques-uns de nos ecclésiastiques les plus éminents. Je le laisse ici, pour vous, à côté des veilleuses, et je me ferai un plaisir de vous en fournir encore, au cas où vous en auriez besoin. » Sur ces mots, le ministre des États-Unis posa le flacon sur une table à-dessus de marbre et, fermant sa porte, se retira dans sa chambre pour se reposer. Un instant, le fantôme de Canterville demeura absolument immobile, dans un excès d'indignation bien naturel. Puis, ayant lancé violemment le flacon sur le parquet poli, il s'enfuit le long du couloir en poussant des gémissements sourds et en émettant une lueur verdâtre et fantomatique. Dès qu'il eut atteint un petit cabinet secret dans l'aile gauche, il s'appuya contre un rayon de lune pour reprendre haleine et se mit en devoir de faire le point de sa situation. Jamais, au cours de sa carrière brillante et ininterrompue depuis 300 ans, il n'avait été aussi grossièrement insulté. Tous ses grands triomphes lui revinrent en mémoire, depuis le cas du maître d'hôtel qui s'était tué d'un coup de pistolet dans l'office parce qu'il avait vu une main verte frappant au carreau, jusqu'à celui de l'abeille Lady Stuffield, qui fut contrainte définitivement de porter un ruban de velours noir autour de sa gorge pour cacher la brûlure qui avait laissé 5 doigts sur sa peau et qui finit par se noyer dans l'étang aux carpes à l'extrémité de l'allée du roi. Avec l'égotisme enthousiaste du véritable artiste, il passa en revue ses exploits les plus célèbres et eut un sourire amer en se remémorant sa dernière apparition en tant que Ruben le Rouge ou le nourrisson étranglé, ses débuts comme Gédéon le Décharné, le suceur de sang de Bexleymore, et le succès prodigieux qu'il avait obtenu par une splendide soirée de juillet, simplement en jouant aux quilles avec ses propres ossements sur le court de tennis gazonné. Et après tout cela, quelques misérables Américains modernes venaient lui offrir le lubrifiant Soleil Levant et lui lancer des oreillers à la tête. C'était absolument intolérable. D'ailleurs, aucun fantôme de l'histoire n'avait jamais été traité ainsi. Aussi résolut-il de se venger. Et il demeura jusqu'au jour plongé dans une profonde méditation.
Merci Camille, qui nous a également donné la chair de poule en nous proposant en virgule un extrait de Nuit de Yanis Xenakis. Je vous lis la dédicace qui accompagne cette œuvre a cappella pour le moins étrange. Pour vous, obscur détenu politique, Narciso Julian, Espagne depuis 1946, Costa Filinis, Grèce depuis 1947, Eli Iriadrou, Grèce depuis 1950, Joaquim Amaro, Portugal depuis 1952. Et pour vous, milliers d'oubliés, dont les noms mêmes sont perdus. Une autre façon, moins joyeuse, de se glacer le cœur. Et pour vous remonter le moral, je n'ai malheureusement rien de mieux qu'un théoricien du XVIIIe siècle, dont une citation va servir de point de départ pour discuter de nos lectures et de l'épouvante. On vous rabat probablement les oreilles avec la catharsis, la terreur et la pitié, théorisée par un certain Aristote depuis le lycée. Il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, chez nos amis les Anglais, la catharsis cède la place à l'extasis, une idée qu'il tire d'un autre vieux poussiéreux nommé Longinus. Il ne s'agit plus de se purger de ses passions négatives, mais d'être transporté par elles. Le siècle des Lumières, certes, Mais pour les British, il faut exercer ses émotions autant que son esprit. Donc l'ecstasy, c'est une sorte de gymnastique. Non mais sans blague. Le grand concept esthétique est le sublime, une beauté masculine effrayante que l'on trouve dans les actions de Dieu et dans les phénomènes naturels, et qui fait éprouver au spectateur une terreur mêlée d'admiration et du sentiment de sa propre insignifiance. Dans un article du journal The Spectator, intitulé « On the Pleasures of Imagination », Joseph Addison se penche sur la nature contradictoire de ce sentiment lorsqu'il naît d'une lecture poétique. « The two leading passions which the more serious parts of poetry endeavor to stir up in us are terror and pity. But how comes it to pass that we should take delight in being terrified or dejection by description when we find so much uneasiness in the fear or grief which we receive from any other occasion? If we consider, therefore, the nature of this pleasure, we shall find that it does not arise so properly from the description of what is terrible as from the reflection we make on ourselves at the time of reading it. When we look on such hideous objects, we are not a little pleased to think that we are in no danger of them. We consider them at the same time as dreadful and harmless, so that the more frightful appearance they make, the greater is the pleasure we receive from the sense of our own safety. In short, we look upon the terrors of a description with the same curiosity and satisfaction that we survey a dead monster. » Traduction par moi, faute de mieux. Les deux passions majeures que les passages poétiques plus sérieux réussissent à évoquer en nous sont la terreur et la pitié. Mais comment se fait-il que nous prenions plaisir à être terrifiés ou démoralisés par une description, alors que la peur et la peine, qui nous échoient en toute autre occasion, sont source de tant de mal-être ?
Si donc nous nous penchons sur la nature de ce plaisir, nous découvrirons qu'il n'est causé pas tant par la description d'une chose terrible que par l'introspection que nous menons au moment de la lecture. Lorsque notre regard se pose sur ces objets hideux, nous ressentons une satisfaction non négligeable à l'idée qu'ils ne représentent pas un danger pour nous. Nous les considérons donc, au même moment, comme épouvantables et inoffensifs. Si bien que plus leur apparence est effrayante, plus grand est le plaisir que nous tirons de notre propre sentiment de sécurité. En résumé, notre regard se pose sur les horreurs d'une description donnée avec la même curiosité et la même satisfaction avec laquelle nous examinons un monstre mort. Donc on a vu un certain nombre de monstres, humains ou non, dans nos extraits, même si on ne peut pas vraiment dire qu'ils étaient morts. Je pense que cette notion de distance soulevée par Addison s'appliquait assez bien, surtout au passage où on avait du comique, qu'il soit farcesque comme Scooby-Doo, ou plus subtil avec Wilde. Et même avec Zola, vous ne pouviez pas le voir, chers auditeurs, mais qu'au début, quand Will lisait La Bête humaine, on faisait des grimaces et on rigolait un peu. À cause justement de cet excès de sentiments amoureux, même si par la suite on rigolait plus autant quand il était en train de la tuer. Donc c'est sûr que cette distance peut exister même à des moments inattendus. Et Camille, tu nous parlais avant l'émission des conditions de réception des histoires d'horreur, par exemple le fait que dans Gogol, il s'agit d'histoires qui sont faites pour être récitées au coin du feu, pour se faire peur en société. C'est quand même un cadre assez particulier. Ce que je me disais en écoutant Vivienne Allyr, c'est qu'avec son charmant accent, il y a une sorte d'étrangeté et de proximité qui se crée avec le texte lui-même. Et effectivement, on voit que c'est un autre pays et des sorcières, un monde vraiment étrange. Donc, Viviana, est-ce qu'en lisant...
Ça te faisait peur, ces histoires de sorcières, ou est-ce qu'au contraire, il faut mettre à distance pour lire un passage comme ça, à ton avis ?
Ok, je pense que... Tu dois mettre un peu de distance quand tu lis quelque chose pour faire peur, pour faire rire. Et c'est un mot que aussi les acteurs utilisent pour réciter quelque chose.
Mais par exemple, quand tu fais la sorcière dans Macbeth, oui. Si tu as peur, tu n'es pas effrayante. Alors que là, il faut que tu prennes un peu ce rôle de « j'ai le pouvoir, je te fais peur ».
Je pense que quand tu mets en scène quelque chose, tu dois penser comme les protagonistes du roman. Donc, tu ne dois pas avoir peur parce que tu n'es pas le lecteur, tu es le protagoniste. Donc, tu dois faire la sorcière, tu dois faire la voix comme ça, un peu, pour faire peur.
L'idée, c'est de devenir soi-même le monstre.
Après, à l'inverse, dans Xenakis, ce qui nous fait peur, c'est que c'est des cris de prisonniers. Donc, c'est des gens qui ont peur et on vit leur peur un peu par empathie, par exemple, dans le morceau qu'on a entendu. Là, c'est encore différent. Après, c'est notre média, c'est de la musique.
Quand tu nous as fait écouter, au début, on ne savait pas que c'était des cris de prisonniers et oui, il a fait un bond de 3 mètres.
Ça, c'était pas censé être dit à la radio.
C'est pas grave, on le dit quand même. Non, mais les cris en eux-mêmes sont terrifiants, quoi. Ça donne la chair de poule.
Aussi, la distance que ça peut créer entre la musique ou le texte et le récepteur, donc le lecteur ou l'auditeur, parce que ça installe le sentiment d'étrangeté qu'en fait, ça vient contrebalancer ce à quoi on pourrait s'attendre, quoi. Ce qui fait que, comme il y a ouais, ces sentiments d'étrangeté horrible qui, voilà, il y a aussi cette peur de l'inconnu en fait.
Et au contraire, dans les deux livres que j'ai lus qui sont plutôt drôles, donc Scooby-Doo voilà, et Le Fantôme de Canterville, c'est justement parce qu'on reprend que des codes super précis et c'est pour ça que ça ne fait plus peur du tout. Enfin, le fantôme terrifiant avec ses chaînes, et, enfin, c'est totalement usé comme code et donc on n'a plus peur du tout parce qu'il n'y a plus cette étrangeté-là qui fait peur finalement.
Le fait rigolo, c'est qu'on utilise les clichés littéraires des genres horrifiques.
Oui, les clichés. C'est vrai que le temps, mais aussi une distance. Je vous disais, les Elisabethins, ils croyaient vraiment aux sorcières. La situation, on disait, oui, effectivement, comme une situation différente. En plus, comme mon ami Xenakis, juste après Oscar Wilde, c'est pas du tout le même ton et ça crée un contrepoids qui peut faire se sentir mal à l'aise. Et c'est pareil, je pense que... Oui, il a sursauté, non pas parce qu'il est trouillard, mais parce que... Au moment où Camille nous a fait passer l'extrait, on parlait, on pensait à autre chose, et tout d'un coup, il y a ce bruit qui apparaît, et plus quoi penser, et notre corps se rebelle.
Et puis c'est peut-être même limite plus rassurant de savoir que ce sont des cris de prisonniers. Parce qu'en fait, moi, ce qui m'a surtout fait peur, c'est que, franchement, je ne savais pas du tout si c'était un cri humain, un bruit fait par ordinateur ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui brise totalement ce que... C'est vrai que c'est quelque chose de totalement terrifiant. Donc
et c'est le but de l'œuvre de faire peur, je pense. Donc
Oui, c'est réussi.
Quand on est seul chez soi et qu'on entend des bruits bizarres, on a peur parce qu'on n'arrive pas à identifier ce que c'est. Quand on sait ce que c'est, quand on sait que la tuyauterie elle est vieille et que ça craque, bah ça va quoi, on accepte.
C'est une expérience vécue.
Oui, vécue, tout à fait, chez mon grand-père. Merci Viviana.
Les effets sonores.
C'est pour ça que quand t'es enfant, t'as peur parce que tu connais moins de choses, t'as moins d'expérience et je sais pas, le moindre chose qui, le moindre bruit bizarre dans la nuit, tu peux pas l'identifier. D'où Scooby-Doo, c'est hyper effrayant quand t'es enfant. C'est terrible.
Mais du coup, les enfants, ils n'ont pas la distance, ils ne peuvent pas mettre de distance grâce à l'intellect, mais n'empêche qu'ils ont quand même plaisir à se faire peur. Donc, ouais, c'est complexe, cette idée proposée par Addison.
C'est aussi que la peur, c'est un peu comme le plaisir, c'est quelque chose de physique aussi. C'est-à-dire que la peur, c'est aussi, quand on tremble, quand on crie, c'est quelque chose de très, très physique. Donc, il y a aussi une dimension assez sensuelle, finalement, dans la peur.
Mais d'ailleurs, ton extrait de La Bête humaine était très érotique. Donc c'est assez intéressant ce rapport entre cette femme qui donnait à un homme et qui allait, je pense, en pleine scène érotique et cet homme qui, lui, est aux prises avec ses passions un peu plus noires.
Même carrément meurtrière, oui.
On en revient encore au corps, comme dans la première mission.
C'est le thème de l'année.
Bah oui, je veux dire, on lit, on essaie de rendre les textes vivants, donc forcément, qu'on mette de la distance ou qu'on reste proche du texte, le corps est important. Effectivement. Parce qu'on se sent vivant quand on a peur, après tout.
C'est peut-être ça l'intérêt, finalement, de se faire peur.
Voilà, auditeur, nous espérons t'avoir fait te sentir très vivant par la peur que nous t'avons inspirée.
Voilà, quelques zombies pour finir, ça met toujours de bonne humeur. C'était Thriller de Michael Jackson. Encore un qui n'avait pas l'air très humain étant vivant et qui, même mort, ne l'est pas vraiment. Nous arrivons à la fin de cette émission, merci de l'avoir écouté, et nous espérons vous avoir donné la chair de poule aux yeux et aux oreilles. Ouais, pas top comme métaphore. Et si nous avons misérablement échoué, tant pis, l'avantage d'une émission de lecture, c'est que vous pouvez vous empresser de fourrer le nez dans un livre, connu, inconnu, ancien, récent, intelligent, très très bête. Peu importe, tant que vous écoutez sa voix, tant que vos yeux ont des oreilles. Copyright Camille. Cette émission a été préparée tous ensemble, mais la majorité du pôle musique est à mettre sur le compte de Camille et Willem. Merci à Robin à la technique, qui devait mettre un t-shirt que je devais lire, mais il a oublié. Donc tant pis, prochaine fois. T'en as un avec un ours. Oh. Mais je peux pas le lire. Ouais, ok, donc ça fait peur.
Oh.
Donc un ours qui fait peur sur le t-shirt de Robin. Si tout se passe bien, nous vous reverrons dans 2 semaines pour une émission sur le thème littérature et musique. D'ici là, il y a tout plein de choses bien sur Transistor, vos oreilles ne seront pas en reste. En guise d'envoi, un autre monstre sacré de la littérature, le poème « The Raven » d'Edgar Allan Poe. Le saviez-vous, il existe un admirateur acharné de Poe qui, jusqu'à quelques années, se rendait tous les ans sur sa tombe le jour de son anniversaire, 19 janvier, pour lui porter un toast avec du cognac et laisser 3 roses. C'est mignon, hein ? Voici donc les 4 dernières strophes de The Raven, la version originale lue par moi, et la version française lue par Willem, qui nous offre sa propre traduction.
Prophète, dis-je, chose du démon, certes prophète, que tu sois oiseau ou démon, que tu sois envoyé par le tentateur ou qu'une tempête t'ait échoué sur ses bords, naufragé mais encore intrépide, sur le désert de ces lieux maudits et insipides, sur cette maison hantée par l'horreur, dis-moi vraiment, je t'implore, Existe-t-il ? Existe-t-il un baume en Judée ? Dis-moi, dis-moi, je t'implore. Dixit le corbeau, jamais plus.
Prophet, said I, thing of evil, prophet still if bird or devil, with a tempter's send or with a tempter's toss thee here ashore, desolate yet all undaunted, on this desert land enchanted, on this home by horror haunted, tell me truly, I implore, is there balm in Gilead? Tell me, I implore. Quoth the raven, nevermore.
Prophète, dis-je, chose du démon, certes prophète que tu sois oiseau ou démon, par ce havre qui nous surplombe, par ce Dieu que nous adorons tous deux encore, dis à cette âme chargée de chagrin, si dans le vierge paradis lointain, elle pourra embrasser une vierge de satin, que les anges nomment Lénore, embrasser une rare et radiante vierge de satin, que les anges nomment Lénore. Dixit le corbeau, jamais plus.
Prophet, said I, thing of evil, prophet still if bird or devil, by that heaven that bends above us, by that God we both adore, tell this soul with sorrow laden, if within the distant Aden it shall clasp a saintly maiden whom the angels name Lenore, clasp a rare and radiant maiden whom the angels name Lenore. Quoth the raven, nevermore.
Que ce mot soit le signal de notre séparation, hurlai-je en me levant plein d'émotion. Retourne dans tes tempêtes et aux rivages plutoniens de la nuit morte. Ne laisse aucune plume noire en souvenance du temps où tu prononças le mensonge rance et laisse à ma solitude toute sa puissance. Quitte le buste au-dessus de ma porte, retire ton bec de mon cœur et prends ton envol. Vole loin de ma porte. Dixit le corbeau, jamais plus.
Be that word our sign of parting, bird or fiend, I shrieked upstarting. Get thee back into the tempest and the night's plutonian shore. Leave no black plume as a token of that lie thy soul has spoken. Leave my loneliness unbroken. Quit the bust above my door. Take thy beak from out my heart and take thy form from off my door. Quoth the raven, nevermore.
Et le corbeau impassible est toujours assis sur le buste placide de Pallas, juste au-dessus de ma porte sans répit. Avec son regard ressemblant à un démon rêvassant, et la lumière de la lampe sur lui ruisselant, jette son ombre sur le tapis, et mon âme, hors de cet ombrage étendu, flotte au-dessus du tapis. Elle ne pourra plus s'élever, jamais plus.
And the raven, never flitting, still is sitting. Still is sitting on the pallid bust of Pallas, just above my chamber door. And his eyes have all the seeming of a demon's that is dreaming. And the lamplight over him streaming throws his shadow on the floor. And my soul, from out that shadow that lies floating on the floor, shall be lifted nevermore.